Dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse ancienne, qui comprend les traditions initiatiques du passé et les enseignements ésotériques modernes. Durant une heure, nous allons vous présenter quelques mots-clés et tenter de les définir pour vous. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde.
Eh bien, on se retrouve pour notre dictionnaire cette fois-ci. Alors, j'ai ouvert le dictionnaire à la lettre I, figure-toi David, et j'ai trouvé un mot un peu barbare, un peu curieux, c'est le mot individualisation. Individualisation, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire là-dessus ?
C'est un mot qui revient souvent, surtout dans les enseignements de Madame Blavatsky ou d'Alice Bailey. L'individualisation, alors il y a le mot individu dedans.
Attends, David, je vais juste dire pour les auditeurs qui n'auraient pas déjà eu la formation que ce sont donc des occultistes, on va dire, ces deux femmes, hein, ou des ésotéristes occidentales modernes, Blavatsky ayant vécu au 19e et à la fin du 19e et Alice Bailey au début du 20e.
Donc leurs enseignements sont ceux des maîtres de sagesse parce qu'elles étaient tous les deux... on dit adombré, inspiré par un ou plusieurs maîtres de sagesse. Et donc, leurs enseignements rendent compte de cette sagesse ésotérique, cette sagesse orientale également, qui est aussi une sagesse universelle. Comme on le sait, toutes les traditions ont en commun, d'une manière ou d'une autre, une explication de l'histoire de l'humanité à travers divers symboles, tels que le déluge, les géants, tous ces thèmes qui reviennent constamment, c'est pas pour rien. Donc là, c'est en amont, l'individualisation, c'est le processus par lequel un être humain, enfin un animal, on devrait dire, devient un être humain. Il devient un individu à part entière. Alors, un individu au sens humain, pas au sens scientifique, parce que parfois les scientifiques utilisent le terme individu pour un membre d'une espèce, par exemple. Mais techniquement, on devient un individu quand on a donc une individualité, c'est-à-dire une conscience à soi, une conscience de soi, une conscience individuelle. On pourrait dire une âme individuelle, parce que l'âme est la source de la conscience. Hein. Mmh. Si on n'a pas de conscience individuelle, on ne peut pas avoir une personnalité, un moi. C'est pas possible.
Mais ça implique quand même l'idée que c'est pas l'animal incarné qui va tout d'un coup avoir une conscience de type humain. Ça veut dire que dans le processus de l'incarnation, à un moment, il y a une âme qui se développe chez l'animal et que cette âme va s'incarner dans un corps humain, c'est ça que tu veux dire ?
C'est plutôt qu'il y a eu une période, maintenant la période est fermée depuis longtemps. Les enseignements ésotériques disent que cela a eu lieu il y a 18,5 millions d'années, donc c'est très très ancien. Alors là, c'est vrai que c'est des données qui diffèrent pour le moment de l'anthropologie, hein. Donc l'individualisation a eu lieu il y a 18,5 millions d'années, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a eu des nouveaux corps d'apparence humaine qui ont été créés à partir du processus de l'évolution, comme Darwin le dirait, hein. Sauf que la différence avec le darwinisme, ou la complémentarité, parce qu'à mon avis c'est complémentaire du darwinisme, c'est créationniste dans le sens où il y a eu aussi intervention du divin,
l'intervention d'une source supérieure, voilà, une intelligence derrière cette manifestation.
L'ésotérisme n'est pas créationniste comme peuvent l'être les chrétiens, hein, qui pensent que le monde est né il y a 4004 ans, enfin qui sont des fondamentalistes de la Bible. Non, il faut interpréter la Bible de façon ésotérique, comme tous les textes. Hein. Mais la chute du paradis d'Adam et Ève, symboliquement, ça représente simplement la descente des âmes, des âmes humaines dans des corps animaux. Enfin, des corps d'allure humaine, mais qui sont encore de nature animale, mais ces corps vont devenir humains, pas seulement par leur nouvelle apparence, mais parce qu'ils vont être dotés d'une âme individuelle, d'une conscience individuelle, ce que les autres animaux n'auront pas. Mmh. Donc l'individualisation, c'est le processus par lequel, c'est une sorte d'initiation, on peut dire. Hein. Donc c'est un passage d'un état à un autre, dans un état complètement différent. Le passage donc du règne humain, du règne animal, pardon, au règne humain. La dotation d'une âme individuelle, donc la sortie d'une âme groupe dans un état que l'on associe à un état d'être individuel, à une âme individuelle. C'est ça l'individualisation, c'est être doté d'une âme individuelle.
Alors si je comprends bien, il y a une âme groupe au niveau des espèces animales, par exemple on va dire une âme groupe chat, c'est ça ?
Oui, et... contenue dans une âme plus grande encore qui est l'âme collective du règne animal, mais il y a des débuts de fragments à l'intérieur, hein, comme tu dis, les espèces animales.
Et donc à un certain stade, une âme comme ça va se scinder en plusieurs individus qui vont chacun s'incarner dans un corps humain distinct, cette fois-ci individualisé.
C'est pas tant ça, c'est que l'étincelle qui est présente dans le corps animal va passer dans un corps plus élaboré, qui est un corps d'apparence humaine, mais à ce moment-là, il n'y a plus une âme, cet individu n'est plus relié à une âme groupe, il sort de cette âme groupe et il est doté de sa propre âme individuelle. Parce que avant ça, dans les autres règnes, il faut toujours un aspect âme, un aspect intermédiaire entre cette étincelle que l'on a tous. Tous les règnes sont dotés de cette étincelle, par contre les corps diffèrent. Mais il faut toujours une âme, entre guillemets, qui n'est pas forcément une âme humaine, mais une âme groupe au début, une âme qui sert d'intermédiaire. Et là, ça devient notre propre âme, notre propre individualité qui va servir de liant. Donc on va commencer à devenir vraiment des individus à part entière, à penser, à pouvoir dire « je », à dire « je », ça veut dire conscientiser qu'on est une personne, un être, un individu, et pouvoir parler aussi. Ça en découle parce qu'on se rend compte que les animaux ont les organes de phonation pratiquement comme nous, mais ils ne parlent pas. Enfin, ils émettent des sons et autres, mais ils n'ont pas une pensée à articuler et logique et comme la nôtre. Hein. Donc le propre de l'homme, c'est vraiment d'être doté de cette âme individuelle, et cette âme va l'accompagner, nous disent les enseignements ésotériques, jusqu'au bout de l'évolution humaine, et après, la monade, on va dire humaine, entre guillemets, va
ce
passer
que tu avais
dans...
appelé l'étincelle tout à
voilà,
l'heure.
Voilà, l'étincelle,
hein, ouais.
La monade, l'esprit divin en nous, va passer dans le règne suivant, et va perdre, elle n'aura plus besoin de son âme individuelle, parce qu'elle pourra, à la fin de l'évolution humaine, directement entrer en contact avec l'homme ou la femme sur le plan physique. Donc un maître, c'est celui qui a complètement relié son corps, on pourrait dire, à son esprit. Hein. Tout est entièrement relié chez lui. Donc le processus d'individualisation s'est fait, on va en parler sûrement après, hein, à l'époque dite lémurienne. Donc ça remonte à 18,5 millions d'années. Depuis lors, il y en a eu au début de l'ère Atlante. On va en parler après, qu'est-ce que l'ère... l'ère Atlante, mais après ça s'est fermé, il n'y a plus depuis de nouveaux animaux, je dirais, devenus humains. Donc, pour l'instant, la porte de l'individualisation est fermée. Selon les enseignements ésotériques, elle sera réouverte dans des millions d'années.
Autre mot dans ce dictionnaire de sagesse ancienne, donc c'est le mot lémurie, en lien avec ce qu'on vient de dire. La lémurie, donc c'était à la fois un continent, et ça s'est passé il y a très longtemps. David, tu as évoqué l'âge de 18,5 millions d'années, qui serait en fait le début de l'humanité, selon ces enseignements ésotériques.
Alors la lémurie aurait commencé un petit peu avant que ce processus d'individualisation se fasse. Il y a 21 millions d'années, elle aurait duré jusqu'à 12 millions d'années, moins 12 millions d'années. Hein, donc c'est surtout au milieu, vers 18,5 millions d'années.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est Elena Blavatsky, je crois, qui avait la première, peut-être en Occident, rappelé ces notions-là. Et elle avait écrit ça, on avait dû la traiter pour une folle, évidemment.
Non, il y a des traces dans l'hindouisme, hein, je veux dire, elle s'est aussi appuyée sur des calendriers brahmaniques hindous, ça sort pas comme ça de nulle part. Hein.
À l'époque, je crois qu'on donnait 600 000 ans d'âge à l'être humain, hein, il me semble. Je ne parle pas de la science, hein, pas la religion, mais la science donnait 600 000 ans à l'être humain, je crois, non ?
Ça, je ne saurais le dire. Je sais que maintenant, on est à plusieurs millions d'années. Hein, après Lucie, Toumaï, on est vraiment remonté.
Entre 7 et 14, alors oui, on est
Voilà.
remonté déjà beaucoup, beaucoup plus.
Donc ça paraît beaucoup moins ridicule maintenant.
Ouais.
Alors la Lémurie, Olivier, t'as entendu parler de...
Donc c'était un continent dans le Pacifique, c'est ça, de l'actuel
Voilà.
Pacifique?
L'idée, c'est que sous l'océan Pacifique, il y aurait l'ancien continent Pacifique. Il en resterait quelques terres émergées, comme l'Australie, l'Océanie, hein, grosso modo. Hein. Ça serait l'ancien continent. Et puis, bien sûr, les petites îles qu'on trouve...
Est-ce que l'île de Pâques en fait partie?
Oui, l'île de Pâques. On trouve les îles aussi donc du Pacifique, sur la côte ouest américaine. Hein, on trouve... Donc, c'est vraiment entre... C'était l'ancienne jonction entre ce qui est maintenant le continent ouest américain, la partie ouest, et puis la partie extrême orientale. Hein. On parle de continent mu aussi parfois, hein, on a des textes là-dessus. Donc voilà, on a la période, on a l'ère géographique. Bah, le thème général, on l'a dit déjà précédemment, hein, c'est l'individualisation, c'est là où les premiers hommes se sont créés. Alors les traditions disent qu'ils avaient, comme les animaux de l'époque, des tailles gigantesques. Et il est logique que l'être humain appartenant au règne de la nature ait lui aussi évolué dans des corps beaucoup plus grands.
Alors, est-ce qu'on a idée de ce qu'était la vie sur Terre à l'époque? Qu'est-ce qui préoccupait les gens?
Alors, ce que disent les enseignements ésotériques, c'est que en fait, la grande réussite ou l'aboutissement de l'époque lémurienne, ça a été la création de la famille humaine et des premières villes. Cette époque, c'était vraiment le début de l'état humain. On est passé d'un état très animal à un état humain. Les êtres ont été dotés d'une âme individuelle. Ce que l'on dit aussi, c'est que les êtres dont on a déjà parlé dans nos émissions précédentes, hein, par exemple les Kumara, les grands êtres, hein, peu importe les noms qu'on leur donne dans les traditions, ces grands êtres ont pris aussi des corps et ont guidé l'humanité naissante. Ça a été des sortes de dieux pour nous à l'époque. C'est-à-dire que dès la naissance de l'humanité, l'ésotérisme dit que Dieu a toujours marché parmi les hommes depuis le début. On a été guidé par ces grands êtres qui prenaient des corps, surtout des corps hermaphrodites. Alors ça, c'est un thème qu'on retrouve chez Platon, l'idée que la première humanité a été hermaphrodite. C'est-à-dire que les deux, d'abord asexués, puis hermaphrodite, c'est-à-dire la présence des deux sexes, jusqu'à la séparation des sexes qui a abouti à la reproduction que l'on connaît maintenant, généralisée chez tous les mammifères, hein, la reproduction sexuelle, avec également la fécondation par, comme on dit, viviparité, hein, à l'intérieur, hein, de...
Donc il y a une évolution du corps humain lui-même pendant
Voilà.
cette lémurie, alors.
Et qui va aboutir jusqu'à la fin de l'époque lémurienne, au mode de reproduction généralisé que l'on connaît maintenant, avec la création donc de la famille humaine, quelque sorte, et les premiers regroupements sous forme de villes. On imagine justement s'ils sont géants, d'espèces, il en est resté des traces de villes cyclopéennes, comme on dit, hein, de cyclopes, de géants, avec des constructions vraiment monumentales. Voilà un petit peu l'essentiel de ce qui se passe en Lémurie. Hein. C'est surtout le thème général, la création de l'humanité.
Eh bien, nous revenons à la lettre A avec un mot qui va avoir un lien avec ce dont nous venons de parler, c'est le mot Atlantide. Atlantide, avec. Donc c'est une autre période de l'évolution humaine, postérieure à celle de la Lémurie. Les dates, alors on dit que ça a duré pendant 12 millions d'années, énorme.
Ouais, c'est énorme. De 12 millions d'années jusqu'à environ moins 100 000 ans, qui serait l'époque de la...
Moins 100 000 ans, tu veux dire, il y a 100 000 ans d'ici, quoi. 100
Voilà.
ou 102 000 ans.
Voilà, il y a en fait... Non, non, 100 000 ans à partir de maintenant. On dit des fois justement 98 000 ans, selon les enseignements de Benjamin Crème. Donc il y a en effet cette deuxième période. Alors on parle de race, hein, dans les enseignements ésotériques. Ce sont des races... Alors, au niveau de la forme, c'est vrai qu'ils ont des corps qui sont un petit peu différents, mais c'est surtout en termes de conscience aussi. Chaque race humaine développe un type physique. La race lémurienne a surtout développé l'enveloppe physique et donc ce nouveau corps physique, apprendre à le maîtriser avec la pensée, mais très très rudimentaire, qui est présente là. Enfin, surtout, plus que de penser, une conscience individuelle naissante. Hein. Mais durant l'époque atlante, donc on a le développement du corps émotionnel, qu'on appelle aussi astral. Et lui va se développer pendant des très longues périodes. C'est vraiment l'époque et donc la race la plus longue, hein, 12 millions d'années.
Donc ça veut dire que l'être humain va commencer à éprouver des émotions, à réagir à ces émotions, qu'il en soit conscient ou pas.
Et c'est là tout le problème, parce que le désir va naître, l'imaginaire. Souvent l'Atlantide fait référence à un grand conflit, justement, qui est né en partie par l'avidité, par le désir, entre, on dit, ceux qui sont du côté de la lumière et ceux qui sont du côté de l'ombre, de la matérialité. Il va y avoir une forme de guerre, un petit peu de pouvoir, et un avilissement de l'humanité qui va se solder par un déluge. Hein, donc le déluge qu'on voit dans toutes les traditions fait allusion à la fin de cette période. Donc on n'a pas dit l'océan Atlantique a recouvert le continent Atlantique, donc de l'Atlantide, dont il reste le continent américain du nord jusqu'au sud, c'est une partie du continent.
L'Amérique actuelle était partie de l'Atlantide, d'accord. Ouais.
Et puis il reste des dernières îles. Alors on pense à l'île de Poséidon. Poséidonis de Platon, c'est Platon qui a beaucoup fait connaître ce mythe de l'Atlantide, et en fait c'est la dernière des îles à avoir été ensevelie sous les eaux, hein. Et il en reste une pointe, c'est les Açores, hein, les petites îles comme ça.
Au large de l'Afrique
de l'Ouest.
Occidentale, ouais.
Et en fait, donc ça c'est la dernière. Alors on l'a fait remonter, Benjamin Crème donne un chiffre de 15 500 ans.
La disparition de Poséidon.
Voilà. Donc le mythe de Noé biblique peut faire allusion soit de façon générique, enfin générale plutôt, à l'ensemble de la fin de l'enfouissement du continent Atlante, qui a pris sûrement plusieurs milliers, voire quelques millions d'années. Hein. Enfin, c'est par étapes, en tout cas à la fin, ou alors à ce dernier épisode. Hein, de cette dernière colonie qui, dit-on, va se rendre en Égypte, et les pyramides égyptiennes seraient le résultat de cette dernière colonie. Également, une partie a dû s'exiler de l'autre côté, en Amérique centrale et ailleurs. On trouve aussi des pyramides. Mmh. Et on trouve alors la spiritualité de l'époque, parce que c'est la première spiritualité naissante. Elle est essentiellement justement spiritualiste, beaucoup axée sur le culte des morts, sur l'au-delà, sur la magie, les incantations et l'architecture sacrée. Et puis avec un calendrier lunaire, voire solaire, parce qu'à la fin, on commence à développer plus une approche solaire qui va être l'approche dominante des cultures qu'on va dire ariennes, proprement dites. Hein.
Donc si on reste aux Atlantes pour l'instant, donc ils ont vécu des millions d'années, ils ont évolué aussi, j'imagine, en termes physiques.
Ils ont diminué de taille
au
fur et à mesure, et ils vont arriver aux tailles qui vont correspondre aux derniers géants que, par exemple, Ulysse rencontre sous la forme de Polyphème, ou du géant Goliath qui fait environ 3 mètres.
Ah oui, il faisait encore 3 mètres à la fin de la période atlante. Alors.
Enfin, ça se passe même dans l'époque arienne, hein, mais c'est des restes, on dit, dégénérés de ces races de géants, dit-on. Mm-hmm. Et on les trouve, alors ça c'est vraiment curieux, on trouve les géants dans toutes les traditions, que ce soit en Irlande, dans les traditions celtes, où donc les Irlandais appartiennent à la race qu'on appelle arienne. Ils rencontrent à chaque fois des géants. On en a chez les Scandinaves. On les trouve beaucoup vers le nord, d'ailleurs. Hein. Mais les Indiens qui arrivent, les Aryens qui arrivent, aussi se battent contre des géants Rakshasas, qui sont aussi donc de très grande taille. On en trouve dans les mythologies chinoises, japonaises, amérindiennes. Enfin, franchement, c'est universel. Donc, à mon avis, c'est vraiment la trace qu'il y a eu vraiment présence... que se sont côtoyés des humains de taille relativement normale comme la nôtre avec des anciens humains, des anciens êtres appartenant à une époque et une race plus ancienne, celle des Atlantes, de taille beaucoup plus grande.
Donc ils ont développé leur corps émotionnel, leur capacité d'éprouver les émotions pendant ce temps-là, et je crois qu'ils étaient essentiellement, donc, tu l'as dit, hein, gouvernés par leurs émotions, par leurs désirs. Il y a eu plusieurs civilisations aussi, j'imagine. Alors, des guerres entre l'une et l'autre.
Bien sûr. Alors maintenant, les peuples de maintenant, alors on est tous dans l'époque aryenne, mais les peuples issus de cette période-là.
Quand, je juste préciser, quand tu parles d'époque arienne, donc c'est une époque postérieure à celle de l'Atlantide. Hein,
voilà, des 100 000 ans, nous... des 100 000 ans jusqu'à maintenant.
Et voilà, c'est une époque toute naissante. Alors on n'aurait que 100 000 ans à cette époque-là.
Voilà, ce qui est déjà énorme par rapport à, et ce qui est, je le sais très bien, en contradiction totale avec les enseignements, avec l'ethnologie, hein, l'anthropologie et autres. Hein. Mais les peuples qui sont issus de l'époque atlante, c'est les peuples à peau rouge, amérindiens, du nord au sud, hein, avant l'invasion de Christophe Colomb. Et aussi les peuples à peau jaune, les peuples en fait de type chinois, japonais, qu'on dit à caractère mongoloïde, on dit. Hein. Donc ça, c'est les types donc d'Extrême-Orient. Donc les types à peuple, donc les peaux rouges, les peaux jaunes, pour vraiment simplifier, les peuples donc amérindiens et extrêmes.
Seraient des descendants directs des Atlantes.
Voilà, alors. Seraient des descendants de ces peuples-là. Et les peuples à peau noire seraient plus des descendants. Alors eux, on les trouve, hein, on sait, en Afrique. Et puis justement, Sri Lanka et Australie, on voit bien que hein, l'ancien océan Indien et les îles du Pacifique, on trouve les peuples à peau noire qui eux sont des... c'est pas des descendants directs, hein, parce que ça n'existe plus, mais ils ont des lointains descendants des peuples d'origine lémurienne.
Mmh.
Mais il n'y a plus de type lémurien ou atlante pur, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. On est tous dans cette époque-là, il y a eu beaucoup de mixité, il y a eu beaucoup d'évolution là-dedans, mais la grande richesse de l'humanité, c'est qu'elle représente une partie de son histoire.
Mmh.
On n'est pas tous pareils Et Dieu merci, je trouve ça, moi, pour ma part, je trouve ça très très riche. Et la notion de race en ésotérisme n'a rien à voir avec le racisme.
Mm.
Ce serait plutôt une raciologie, hein, une étude des races.
Typologie.
Alors, les types physiques ne sont pas si différents que ça, ma foi. Hein, mais c'est surtout les caractéristiques, la culture qui est importante à ce niveau-là. Hein, on trouve des cultures plus chamaniques, animistes, dans les cultures d'origine lémurienne, on va dire, et plus spiritualistes. Dans les cultures d'origine atlante, le culte des ancêtres, des morts, etc., que ce soit en Égypte ou en Chine, hein, d'ailleurs. Alors qu'on va trouver, on va voir dans l'autre race, des cultures qui vont être de plus en plus sophistiquées, symboliques, avec plus axées sur la parole, sur les symboles, mmh. essentiellement dans les cultures aryennes.
Eh bien, nous restons à la lettre A, avec un autre mot en rapport toujours avec ce qu'on vient de dire. C'est le mot arien cette fois. Alors, on a parlé de ça. C'est un petit peu délicat d'aborder ce mot. En fait, il y a beaucoup de connotations derrière ce mot de race arienne.
Oui, parce qu'on pense tout de suite à Hitler qui a repris ce mot, mais Hitler n'est pas l'inventeur de ce mot-là. Et l'erreur, c'est de lui attribuer une connotation nazie ou fasciste ou même raciste. Non, le mot arien... C'est Arya en sanskrit, ce sont les nobles, hein, c'est tout simplement les peuples qui ont envahi l'Inde, alors envahi ou qui ont migré, là il y a des discussions là-dessus, en tout cas sur une période relativement longue et qui selon la doctrine secrète, se serait étalé sur les 100 000 ans hein, écoulés. Hein.
Ce que tu appelles la doctrine secrète, donc c'est le titre de cet ouvrage de Helena Blavatsky. Hein.
Oui, mais c'est aussi un synonyme de la sagesse ancienne en quelque sorte. Hein.
Mm-hmm.
Donc ils sont originaires d'Asie centrale.
Mm-hmm.
Alors aussi, ce qui est complètement en opposition avec la vision nazie des Aryens, c'est que dans l'ésotérisme, les Sémites font partie des Aryens. Donc on voit vraiment qu'on n'est pas du tout sur le même registre et... philosophique, pas du tout, hein, si on peut parler de philosophie d'ailleurs pour le nazisme. Non, non, d'un point de vue ésotérique, les Sémites étaient une branche des Aryens primitifs hein, dans l'Asie centrale. Ils se sont désolidarisés, ils sont plus installés au Moyen-Orient, et après coup d'ailleurs, alors que les premiers donc Aryens qui descendent, on sait, s'installent dans l'ancien nord-ouest de l'Inde et du Pakistan, avec une branche en Iran. On parle d'ailleurs de groupe indo-iranien. Alors on parle parfois de sous-race, c'est-à-dire qu'on va à l'intérieur, sous en tant que classification, hein, pas en tant qu'inférieur. On classe la grande époque aryenne en sous-race, c'est-à-dire en sous-rubrique. Hein. Donc la première, c'est la branche indo-iranienne. Il y a une branche qui... Alors au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on parle d'indo-européen ou indo-iranien, irano-européen, ça serait peut-être plus juste. C'est-à-dire qu'à partir de l'Inde, il va y avoir des grandes vagues migratoires qui vont toucher jusqu'à l'extrême frontière de l'Europe, en fait. Hein. Donc on va voir les Égyptiens, puis les Sémites primitifs qui s'étaient installés vont de nouveau se mêler. Donc ça, c'est les anciens Sumériens, ils vont se nommer au type Akkadien, Assyrien, Babylonien, enfin qui vont donner ces types-là, donc à cause de grandes migrations.
Donc ils se sont mêlés aux gens qui étaient encore Atlantes alors à l'époque.
En quelque sorte, voilà. C'est qu'il y a eu des anciens peuples atlantes, mais de la fin de l'Atlantide, hein, hein, qui se sont mêlés aux vagues de migration d'origine indo-iranienne. Et c'est pour ça qu'on trouve énormément de cultures indiennes en Mésopotamie, beaucoup plus que l'on croit d'ailleurs. On en trouve beaucoup en Égypte, et alors après, il va y avoir les types gréco-latins, hein. Et puis celte aussi. Et puis la dernière branche, la cinquième, c'est le type européen, on va dire. C'est le dernier né, c'est-à-dire le type, on va dire, on pourrait l'appeler scandinave, germano-scandinave, c'est le type, mais germano, c'est pas une bonne définition. C'est en tout cas les peuples qui vont être à l'origine des grandes nations de maintenant, européennes. Hein, donc on a les Francs, les Alamans, les Slaves... les Goths, alors Visigoths, Ostrogoths, etc. Tout ça, c'est la dernière sous-race, c'est la cinquième. Et les Américains sont eux-mêmes le produit de...
les Américains des États-Unis, tu veux
voilà,
dire, oui.
Voilà, des États-Unis, hein, sont maintenant le produit de ces différents colons européens, mêlés aussi aux Africains, qui ont été malheureusement déportés en tant qu'esclaves sur le continent. Il y a aussi des colonies... des migrations chinoises, asiatiques. Donc en fait, il y a un melting pot, et dit-on qu'aux États-Unis, et puis aussi au Brésil, enfin bref, sur le continent américain, il y a un grand brassage, et ils représenteront la future sixième sous-race. Voilà, c'est ça qui est dit dans les enseignements ésotériques. Mais la sixième sous-race, toujours à l'intérieur du grand groupe qu'on appelle aryen. Donc on voit qu'on est plus dans une époque et qu'on n'est plus dans des races telles qu'on les connaît maintenant. C'est des brassages énormes, culturels. Hein.
Et donc, il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça?
Non, non, c'est important de le dire, il n'y en a aucun même.
Ça représente quoi? Ça représente des expériences qui sont faites par, je sais pas, l'entité qu'on nomme le dieu de cette planète ou...
Oui, c'est comme s'il avait sept visages. On a déjà parlé des Kumara à Shambhala. Eh bien, dans la hiérarchie aussi, il y a des Manus, c'est-à-dire des maîtres qui successivement représentent un aspect d'une race donnée proprement dit. Hein. Il y a Manu pour la race lémurienne, pour la race atlante, pour la race aryenne. Ça, c'est issu de l'hindouisme. Hein. Manu, ça veut dire homme. Hein. Ce qui a donné man aussi, penser. Man en anglais, l'homme. Eh bien, ces êtres-là synthétisent, sont en fait les prototypes ou les archétypes d'une race complète. Et donc, une race est une forme de développement d'un aspect de la nature humaine, on peut dire. Un rayon. On pourrait dire, voilà, il existe plusieurs races parce qu'il existe plusieurs rayons, plusieurs manifestations, et qu'il n'y en a pas une supérieure à une autre, que l'ensemble forme le tableau général, avec toutes ses couleurs, ses variantes, le tableau d'une humanité une.
Et donc, lorsqu'on parle des fois de réincarnation, donc on peut se réincarner dans n'importe quelle autre race. Pas...
Bien sûr, d'où l'idiotie du racisme, parce qu'on peut justement... s'incarner dans un corps de type africain.
Alors qu'on peut avoir été raciste, un blanc raciste dans cette vie-ci. Quoi.
Bien sûr, et souvent même il y a des liens karmiques comme ça, d'un passage à l'autre. C'est très très surprenant. Hein. Donc on peut vraiment, et souvent le parcours de l'âme, elle a en fait fréquenté différents corps, différentes cultures. Malheureusement, on se souvient pas de, on n'a pas la réminiscence de tout cela, mais on est un produit de toute cette évolution et on a toute l'humanité en nous, c'est ça aussi l'idée. Mais à la fin de l'évolution, quand même, souvent, l'âme reste dans une culture donnée et elle va souvent se réaliser à travers une culture donnée. C'est pourquoi les maîtres eux-mêmes sont souvent parfois appelés du nom ou qui représente leurs dernières incarnations. Je pense au maître tibétain. Le maître Joel Kool, qui a écrit beaucoup à travers Alice Bailey, donc que l'on cite beaucoup en fait dans ses émissions, hein, ce maître tibétain, à travers Madame Blavatsky. On l'appelle le tibétain parce que ses dernières incarnations sont, sont dans la culture, dans des corps, dans des corps tibétains. Mmh. Donc les maîtres aussi représentent des types humains. Donc franchement l'ésotérisme il y a tout vraiment sauf du racisme dedans, mais il y a une étude des types humains, ça oui, ça vraiment c'est quelque chose d'important. Ce sont des manifestations de l'unité dans la diversité, hein, il y a une humanité mais elle est diverse en même temps et c'est ce qui fait sa richesse et ce qu'il faudrait que l'on réussisse à comprendre, c'est que chaque peuple a apporté sa pierre de touche à l'édifice mondial, à la culture mondiale d'une manière ou d'une autre, dans les religions, dans les arts, dans les sciences, à divers niveaux.
Alors est-ce qu'on peut dire que l'objectif de cette race, hein, pour employer ce mot, cette race aryenne, c'est de développer le corps mental, de même que on a vu que l'Atlante avait pour objectif de développer son corps émotionnel, et puis le Lémurien, l'objectif de développer le corps physique.
Alors voilà, tout à fait, c'est tout à fait juste dans le temps, même s'il faut encore une fois comprendre que c'est que tout est dans tout, c'est-à-dire que maintenant tous les peuples sont dans l'ère aryenne, hein, y compris les peuples, donc on disait qu'ils sont des lointains descendants des types lémuriens ou atlantes, hein, on parlait des...
C'est simplement
une actualité mondiale.
C'est simplement, quand on dit lointains descendants, c'est simplement au niveau physique, j'imagine, mais pas au niveau émotionnel ni mental. Où tu as parlé de culture, c'est vrai.
Voilà, il y a quand même des cultures, je ne sais pas, l'importance peut-être de la culture animiste, de la danse sacrée, dans la culture noire, à mon avis, ça, il y a des racines anciennes qu'on pourrait retrouver. C'est comme s'ils avaient gardé une trace de cette culture. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas forcément, bien sûr, développé leur corps émotionnel, leur corps mental. Bien sûr, ça va de soi, mais... Donc il faut se faire la différence entre l'époque maintenant, qui est l'époque aryenne, et les races qui sont, les anciennes races sont en fait disparues. Mais il y a comme des reliquats, des vestiges, des représentations. Mmh. Mais chaque peuple développe bien sûr son corps émotionnel et son corps mental. C'est, la science par exemple est le produit essentiellement des Indo-Européens, mais toute la planète en profite. Mmh. Toute la planète... est à l'heure de ces découvertes scientifiques et ça fait partie de la culture mondiale.
Mmh. Et c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau, on peut penser dans l'histoire quand même. Il y a une accélération de l'histoire au niveau scientifique.
19e siècle, essentiellement, oui. Ouais. Mmh. Bien sûr, oui. Donc voilà, chaque peuple apporte, alors chaque peuple a aussi ses qualités, ses défauts, comme les rayons. Hein, le cinquième rayon, si on voulait l'associer à la cinquième, à la race aryenne, il a les qualités de ses défauts, je dirais. Il est très précis, il est très mental, mais en même temps, il peut être très étroit, arrogant, critique. Justement, toutes ces notions de bête, de supériorité et tout ça, ça pouvait sortir que d'un type hautement mental et hautement centré sur ce qui est, lui, son objet de valeur, c'est-à-dire le mental. Alors que pour d'autres, c'est pas forcément l'intelligence telle qu'on la comprend. Qu'on soit n'est pas forcément...
C'est pas le QI qui...
Non, c'est pas forcément ce qui donne la plus grande valeur humaine. C'est un composant, c'est tout. Mm-hmm. La qualité relationnelle ou la discipline, l'endurance émotionnelle, etc. Tout ça, c'est aussi des qualités comme les qualités physiques. Donc voilà, un être humain, du point de vue des maîtres, les maîtres regardent le corps, le type... national auquel un racial national aussi auquel un être humain appartient, mais pas seulement. Un maître peut lire dans un être humain son rayon d'âme, sa nature d'âme et aussi son karma, un petit peu notre histoire personnelle à tous. Donc c'est très très complexe, on ne peut pas réduire un être humain à une de ses composantes, hein. C'est ça l'idée première.
Eh bien, David, on reprend notre recherche dans notre dictionnaire. Dictionnaire fictif, bien sûr, hein, vous l'aurez compris, mais à la lettre R, on trouve un mot dont on parle beaucoup dans certains milieux, et c'est un mot qui était un peu pas très bien considéré dans les pays occidentaux, je pense, en tout cas il y a une centaine d'années, et puis aujourd'hui qui se répandent beaucoup. C'est le mot réincarnation. Réincarnation, ça veut dire qu'on s'... Il y a le mot incarnation, hein, et réincarnation, ça veut dire qu'on se réincarne, on s'incarne plusieurs fois, en fait. Hein. Et quand je dis on, c'est l'être humain. Alors déjà, qui se réincarne?
C'est pas la personne.
C'est, oui, on voit bien, c'est pas le même corps, ni physique, ni émotionnel, ni probablement mental.
Et tout ça formant la personnalité. Alors la personnalité change à chaque fois. Et à ce moment-là, l'idée bouddhiste de l'illusion du moi tient tout à fait. Il n'y a pas de un moi qui le même un même moi qui passe comme ça. À chaque fois, justement, l'âme se réincarne pour créer un nouveau moi. Une nouvelle personne qui va être le résultat de l'acquis précédent. Parce qu'à chaque fois, l'idée, c'est que s'il y a évolution, c'est que les différents corps que tu as cités se raréfient, s'enrichissent à tous les niveaux, hein.
Se purifie.
Se purifient, se subtilisent, et en même temps acquièrent toute une expérience qui va aller jusqu'à une spiritualisation totale. Mais voilà, il y a un moi qui change à chaque fois.
Et le moi, donc, d'un mois à un autre mois, on fait des progrès en termes de conscience, en termes de purification des corps.
On est censé évoluer, mais c'est vrai qu'on peut aussi stagner, on peut faire des erreurs et on fait en tout cas des erreurs. Donc des fois, alors on peut pas involuer proprement dit, mais on peut retarder l'évolution.
On peut évoluer plus ou moins vite d'incarnation en
Voilà.
incarnation. Et alors, est-ce qu'on a une idée du nombre d'incarnations
Il y en aurait des centaines de milliers si
Des
on retourne,
centaines de milliers.
si on a une humanité vieille de plusieurs millions d'années, ça tient le bout, ça tient la route. Donc on en a beaucoup, mais très inégales, plus ou moins longues, parfois très courtes, parfois plus longues. Hein, on voit tous les cas de figure aussi. Hein, on a parlé des différents peuples. On peut s'incarner dans différents peuples à différentes époques.
On va changer de sexe.
Bien sûr. Alors pour l'instant, il n'y en a que deux, hein, mais on s'incarne soit en tant qu'homme, soit en tant que femme. Parfois, on sort d'incarnation dans un corps d'enfant, ou alors dans un corps de vieillard ou de vieille dame, hein, mais peu importe. Mais
Est-ce qu'on peut s'incarner dans plusieurs corps simultanément?
non.
Non.
Non, on ne peut pas s'incarner dans plusieurs corps simultanément. Et la métempsychose en tant que réincarnation dans des corps animaux ne tient pas dans l'ésotérisme. Quelque chose qui existe, par exemple, dans le bouddhisme, mais à mon avis, c'est une mauvaise compréhension de l'enseignement du Bouddha qui est passé comme un dogme. C'est on peut se réincarner tel un animal, c'est-à-dire avec une conscience, si on a fait des choses terribles ou si on est resté vraiment dans un sous-plan de conscience, on peut se réincarner dans un plan de conscience que peuvent partager certains animaux, mais on ne se réincarne pas dans un ver de terre comme les bouddhistes le croient ou
Donc on se réincarne toujours dans un être humain, quoi,
dans le règne humain,
dans le
oui.
règne humain, d'accord.
Ce serait une idée qui romprait complètement l'idée d'évolution. En tout cas, dans l'ésotérisme, c'est considéré comme illusoire, hein, le fait de régresser, de se retrouver par des punitions, ou alors je ne sais quelle damnation, ou alors je ne sais quoi d'autre, de se retrouver dans un corps animal. Ça n'aurait pas de sens.
Donc on
Donc,
se retrouve dans des corps humains à chaque fois, qu'on renaît en quelque sorte, hein, on choisit une nouvelle famille et
on
puis
oublie.
ah, on oublie aussi, oui, entre chaque incarnation.
Quoique, au fur et à mesure de l'évolution, au fur et à mesure, on commence à, surtout à la fin, il y a une forme de continuité de conscience qui commence à s'installer, il y a des réminiscences. Si un Mozart, à mon avis, peut créer un petit concerto à l'âge de 4 ans, c'est qu'il y a des réminiscences déjà.
Ah oui.
C'est qu'il y a un savoir-faire. Ça, c'est les génies, hein. Donc, on a quand même des cas de.
On voit aussi les enfants, par exemple tibétains, à qui on montre des objets d'un adulte décédé.
D'un lama précédent dont ils sont
Ouais.
censés être la réincarnation. Oui, on a plusieurs exemples comme ça. Il y a des gens qui se souviennent ou qui pensent se souvenir d'une vie précise. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcé de savoir, d'être sûr que c'est bien la sienne.
Ah oui, on peut revivre une vie précise quelque part, sans, enfin revivre en imagination, sans, en pensant que c'est soi-même dans une vie d'avant, que c'est la même âme en fait, mais ça peut être une autre.
Un autre scénario, bien sûr, qu'avec lequel on est en affinité ou qu'on capte d'une manière ou d'une autre, c'est impossible de savoir précisément si on est l'auteur de cette incarnation, même quand on régresse, quand
Des
on va,
régressions
hein,
en psychologie, tu veux dire?
voilà, quand on rentre dans un état modifié de conscience et qu'on est censé revivre une vie passée, et on n'est même pas sûr de savoir si ce que l'on vit n'est pas une sorte de puzzle, d'amalgame entre peut-être un karma qui nous appartient, hein, des restes d'une ancienne vie, ou même de plusieurs vies, mêlés à l'inconscient collectif, ou à la vie d'un autre, ou un mélange, enfin, tous les cas de figure sont possibles, et à mon avis, c'est impossible de...
Il n'y a jamais de preuve définitive, hein.
Non. Par contre, on peut tomber vraiment sur un scénario tout à fait plausible qui prouve... C'est pas tant qu'il prouve la réincarnation, à mon avis, c'est ça prouve la capacité de la personne à pouvoir entrer en contact avec la vie d'autrui. Mais de là à croire que c'est vraiment la sienne, pour moi, aucune preuve ne le montre forcément. C'est pas parce qu'on se souvient ou qu'on a, enfin, ce souvenir, qu'on a contact. Alors on parle d'annales akashiques, c'est-à-dire c'est une sorte de dans l'espace de réservoir psychique dans lequel tout serait comme comme une pellicule, tout serait imprimé.
Une sorte de mémoire, une bibliothèque de mémoire.
Donc on peut avoir une certaine forme de clairvoyance sur ce plan-là, mais jamais être sûr de l'identité du personnage et de l'histoire, hein. Donc la réincarnation...
Alors, chez les chrétiens, David, comment c'était la réincarnation? Je crois que les premiers chrétiens, eux, croyaient à la réincarnation, a priori. Les
Alors,
premiers chrétiens, je parle des gens qui étaient autour de Jésus il y a 2000 ans en Palestine.
il semblerait que la réincarnation ait fait partie d'un enseignement ésotérique, secret, comme d'autres notions d'ailleurs, hein, qui n'étaient pas forcément divulguées ou échangées avec tout le monde. C'est vrai que tout le monde ne se posait pas forcément non plus la question d'où je viens, qui je suis, où je vais. On voit même que les paraboles de Jésus sont assez paysannes, hein. Il y a beaucoup d'images avec le vignoble, ce genre de choses, hein, qui devaient parler aux gens de l'époque. Mais la réincarnation, elle est proprement dite abandonnée en 553 après Jésus-Christ, donc au deuxième concile de Constantinople. Les thèses d'Origène sont abandonnées définitivement. Donc c'est assez tardif.
Donc Origène, au 1er siècle, lui, hein.
Entre le 1er et 2e siècle. Et donc Origène même si ce n'était pas un gnostique proprement dit, il avait une vision de la perfection de l'homme à travers des cycles d'incarnation. Et on a ça bien sûr aussi chez les gnostiques chrétiens. Qu'on tombe, on oublie justement, il y a le thème de l'oubli, hein. Que quand on n'a pas reçu la gnose de Jésus et quand on n'est pas relié à son Christos en quelque sorte, hein, à son soi profond, on oublie et on retombe dans ce cycle-là. Mais je pense que c'était présent chez les Égyptiens. On a aussi ce scénario de après la pesée des âmes où on est dévoré par le crocodile. Le crocodile représente l'âme humaine qui s'incarne, hein. On mettait même un scarabée sur la poitrine des morts parce que le scarabée représentait le signe du cancer et la réincarnation, justement. Donc voilà, on a chez Pythagore, il y a beaucoup cette notion de réincarnation. Et bien sûr, en Orient, ça, c'est resté dans la culture orientale. Tout ça pour dire que ce n'est pas un phénomène uniquement oriental. Ce n'est pas une sorte de pensée New Age où on aurait envie de tous devenir indo-bouddhistes ou très férus de religion orientale. C'est quelque chose qui fait partie de notre culture, mais qui est voilé ou dont on trouve les traces. Si on les cherche, on trouve des traces dans nombre de cultures égyptiennes, grecques, occidentales, celtiques. C'était aussi très présent. Donc c'est
Et
pas
donc
du tout quelque chose de...
le but
Puis chez Platon aussi.
le but de cette de ces réincarnations, c'est que l'être qui s'incarne, l'entité qui s'incarne, puisse progresser dans sa maîtrise de l'incarnation, donc maîtrise du corps, maîtrise du corps physique, de l'émotionnel, du mental, et arriver à se créer des, comment dire, des corps dans la manifestation, dans la création, qui soient plus parfaits, en quelque sorte, meilleurs.
Oui, c'est logique qu'on ne réussisse pas en une vie à passer l'école Terre, hein, à passer tous les tests de l'école Terre. On peut vraiment bien penser que si l'humanité a évolué si lentement, que parallèlement, chaque individu connaît la même évolution à travers différents corps et que, Dieu merci, il existe plusieurs expériences pour réaliser nos potentiels divins, spirituels.
Et l'aboutissement de tout ce processus, ce cycle d'incarnation, c'est on devient un maître de sagesse, comme on dit. On devient un être humain qui n'a plus besoin de se réincarner.
Tout à fait. Normalement, les maîtres de sagesse sont ceux qui ont vécu les mêmes expériences que nous. Ils nous ont simplement devancés sur le chemin. Ils y sont arrivés avant nous. C'est ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, de magique, proprement dit, dans tout cela. Hein, ça, l'ésotérisme, en fait, présente un tableau qui est assez... assez précis et assez cohérent et logique, en fait, du processus évolutif.
Hein. Et donc, maître de sagesse, à ce moment-là, il ne meurt plus, il n'a plus besoin de mourir, puisque maîtrise totale de la matière.
Maîtrise, voilà, ça veut dire que tout ce qui était mortel en lui est devenu immortel. Hein. Il n'est plus composé des mêmes matériaux. Hein. Ses corps, s'il prend un corps... même un corps d'apparence physique, en fait, et même ces corps spirituels intérieurs sont complètement, justement, spiritualisés, sont complètement, c'est de la lumière pure, en quelque sorte. Donc, il n'est plus soumis aux lois de la nature, comme peuvent l'être les quatre règnes inférieurs, hein, c'est-à-dire humain, animal, végétal, minéral, qui, eux, sont composés encore de particules, on avait dit involutives, de particules qui nous tirent vers le pôle matière. Eux en sont dénués. Donc il est logique qu'ils évoluent dans un corps éthéré qui peut plus ou moins se densifier à leur volonté. Ça semble logique, en fait.
L'être K, un mot encore plus répandu que celui qu'on vient de voir, c'est le mot karma. Karma, c'est une façon orientale de parler de ce qu'on appelle la loi de cause et d'effet. Hein.
Peut-être qu'on peut donner l'étymologie en sanskrit de karma. Ça vient d'une racine kri qui veut dire agir, faire, fabriquer, et c'est traduit souvent par action. Donc en fait, c'est les actions que l'on crée. Action au sens large, ce qu'on produit en fait. En pensée, en parole, en action proprement dite, ce qu'on va produire et ce qui va avoir des conséquences, donc des causes qui vont déclencher forcément des effets.
C'est ce qu'en physique on appelle la loi d'action-réaction, c'est ça ? Chaque action entraîne une réaction de force égale et opposée. On l'a démontré quelque part, l'existence de ce karma.
Bien sûr, par rapport à la notion d'action-réaction, de cause et d'effet... Alors le lien direct avec la réincarnation, c'est que on se réincarne parce que justement on a créé des causes antérieures qui nécessitent des effets, et tant qu'on crée ces causes-là, en tout cas les causes qui vont produire l'incarnation, au niveau de nos pensées, nos émotions, de notre corps, on est attiré pour vivre les effets de ces actions, et au fur et à mesure on parle de bon karma entre guillemets par rapport à un mauvais karma, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure... utilisation, il y a un meilleur usage de ce principe-là.
Donc on est attiré pour revivre les effets parce que le but de cette incarnation, c'est d'apprendre, c'est de progresser. Vivre les effets va nous permettre de prendre conscience des causes que nous avons nous-mêmes générées.
Voilà, et le premier but fondamental de toute âme humaine qui s'incarne, c'est de créer des justes relations. Avec soi-même, avec les autres et avec son milieu environnement naturel, au sens très large. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à ces justes relations, les mauvaises relations en quelque sorte qu'on peut entretenir à tous ces niveaux-là, nous poussent à revenir pour apprendre, pour, on dit transmuter, pour purifier, nettoyer, ce sont des images, hein, pour améliorer en fait, redresser la courbe hein, en quelque sorte, de nos actions. Si on a tué énormément de personnes, à un moment ou l'autre, il y a une rétribution à ça. C'est pas une punition divine, on l'a trop vu comme, hein, comme une punition en fait, mais c'est une loi, on peut dire, de rétribution, de rééquilibrage, en quelque sorte. Hein.
On parle de mauvais karma, de bon karma, mais certains disent qu'on a plus de bon karma que de mauvais, simplement on s'en aperçoit moins, on en est moins conscient parce qu'il ne nous dérange pas celui-là.
Voilà, c'est vrai. C'est vrai que, alors c'est pas vrai pour tout le monde encore sur Terre, malheureusement, mais que la vie sur Terre est quand même moins, j'ai envie de dire moins difficile là. En tout cas, il y a une partie de l'humanité qui a eu accès à un meilleur savoir-vivre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le partager à un niveau mondial. Mais que, oui, du point de vue ésotérique, on a acquis des choses importantes en matière d'éducation, en matière de droits de l'homme, mine de rien, de démocratie ou de vie communautaire qui sont quand même basées sur des choses, des principes bien meilleurs. Ça montre qu'il y a vraiment une évolution, même s'il y a encore la barbarie, s'il y a encore la justice, etc. Tout ça est imparfait, mais du point de vue des maîtres de sagesse, il y aurait un meilleur karma. Plus que, et on irait et on va d'ailleurs manifester. Il y a aussi un karma on dit, qui est parfois en germe. Hein, il y a pas, tout n'est pas en manifestation dans ses effets. Donc on crée constamment du karma. Il y a un karma qu'on crée même constamment dans cette vie-là, en fait, hein, des actions.
Dans sa propre vie actuelle, sans vouloir remonter aux vies antérieures, on se crée jour après jour du karma pour notre futur.
Alors,
C'est évident.
les effets vont être positifs ou négatifs en fonction des causes, tout simplement. Hein, si les causes sont justes, les effets seront justes. Et l'inverse est vrai aussi. C'est naturel, en fait, c'est assez logique.
Ça incite à se comporter de façon, comment dire, inoffensive vis-à-vis de ses voisins et de ses. Hein, si on sème la guerre, on récoltera la guerre. Hein?
Oui, celui qui tue par l'épée périra par l'épée, hein, la fameuse phrase de Jésus.
Ah oui, on peut retrouver ça lors des traces
Oui.
dans la chrétienté aussi, de cette notion de karma.
On récolte ce qu'on sème, c'est une très bonne. Encore une fois, c'est une allusion presque agricole. Hein, voilà. C'est une image agricole, mais en fait, c'est l'image de la loi du karma. Si on sème des grains de blé, il ne faut pas s'attendre à voir du tournesol sortir de terre.
Et inversement.
Voilà. Donc, en fait, on a eu énormément d'enseignements sur cette loi de karma. Alors, sur les relations justes, ce qui est universel, c'est qu'on retrouve toujours cette idée, que de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, ou de faire autant le bien de l'autre comme on aimerait le bien pour soi-même, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment présent dans toutes les traditions. Zoroastre, Confucius,
On appelle ça
Platon.
la règle d'or, non?
Oui, c'est en fait, voilà, c'est la règle d'or. Et on pourrait dire c'est la base des relations justes. Donc ça devrait être le dénominateur commun d'une bonne gestion du karma. On fait du bon karma, entre guillemets, parce que c'est quand même le but de faire. Alors c'est un peu dualiste de dire bon karma, mais plutôt que de créer la misère, la souffrance et la désolation, on peut vraiment créer des germes positifs en respectant cette loi d'innocuité, hein, cette règle d'or. Pour créer les relations justes, qui est la base de toute incarnation humaine, le but, le dessein de toute incarnation humaine. C'est pas le seul, parce qu'après chaque âme va avoir son propre dessein. Hein, chaque âme a sa vocation, a sa petite destinée, hein, quelque sorte, qui n'est pas isolée du reste du monde d'ailleurs. Hein, on a des destinées qui sont reliées à un groupe, en fait, hein,
Donc il existe un
familial.
karma collectif alors.
Voilà, il y a un karma qui est lié alors à la famille, ça c'est évident, pas seulement au niveau génétique, mais on sait déjà qu'au niveau génétique, on a le terrain génétique de sa famille, hein, du père et de la mère. Et on a un karma familial d'un point de vue psychologique, on peut dire, hein. On arrive aussi dans un inconscient collectif familial, avec ses histoires. Et on a aussi un
Et
karma national
oui.
et un karma de règne en tant qu'être humain même.
Par rapport aux autres règnes de la nature. Oui. Et donc on peut imaginer qu'on est à l'origine de ce qui nous arrive dans cette vie-ci, même si c'est des conséquences génétiques, par exemple, c'est au niveau du corps physique, où tu parlais de une ambiance psychologique dans une famille, on peut imaginer qu'on a été aussi celui qui a contribué à la créer, cette ambiance, il y a un certain nombre de vies.
C'est possible qu'on a été un chaînon de cette chaîne, un maillon, un moment. Et c'est pour ça que la sagesse ancienne peut vraiment aider à développer une forme de sagesse, justement. C'est en cessant de se plaindre continuellement, parce qu'on se plaint sur son sort, sa destinée, on se plaint. Mais on n'a pas forcément le scénario complet. On sait pas forcément. Je sais pas, on peut venir avec un handicap sans savoir et se plaindre et même en vouloir à Dieu, si on croit à Dieu, hein. Mais on peut comprendre les formes apparentes d'injustice par une justice qui n'est pas humaine, mais une justice qui est peut-être surhumaine.
Qui couvre plusieurs existences.
Voilà. Et des choses qui s'équilibrent, qui se nettoient, qui s'ajustent, parfois ça, sous la forme d'handicap, d'épreuves, d'embûches, de contraintes diverses. Ou alors des fois, au contraire, tout semble facile et on se demande pourquoi. On va parler de chance, de heureux hasard, mais en fait, on se rend compte qu'on est peut-être en train de vivre les effets positifs, entre guillemets, d'actions jadis mises en place. Alors quand on dit action, hein, on est d'accord, hein, pensée, parole, action.
Ah oui, ça peut être des pensées aussi,
on
bien sûr.
On peut agir
ouais.
puissamment par la pensée et par les paroles. Bah, on voit bien, hein, même certains, beaucoup de gens qui sont morts continuent d'avoir une action par leurs livres, par exemple, hein, par leurs pensées. Alors maintenant, il y a la vidéo, il y a tout ça. Donc on voit que c'est vraiment complexe et qu'on continue d'agir et que ça dépasse la simple vie. Il y a même certains qui pensent plus la réincarnation en termes de groupe collectif, hein, en disant que des idées, des énergies passent comme ça de peuple en peuple. Pourquoi pas, mais à mon avis, ça n'épuise pas l'ensemble de la donnée et de la réincarnation et du karma. Une question souvent qui vient, est-ce que les animaux ont un karma comme le nôtre? Les végétaux, les minéraux? On ne peut pas répondre oui de la même manière que l'humain, bien sûr, vu qu'ils sont inconscients, ils ont pas la. Ils ont une conscience à eux, mais ils n'ont pas la soi-conscience, mais.
Il y a une conscience collective aussi qui n'est pas voilà. individualisée. Oui.
Donc il y a un karma collectif, forcément des animaux. Par exemple, une chose surprenante, c'est que toute la souffrance qui arrive au règne animal serait une sorte de continuité karmique d'une souffrance que les animaux auraient causée au début de la création de l'humanité en dévorant énormément d'êtres humains, en faisant pratiquement disparaître le règne humain. Donc il y aurait des fois des choses inattendues, des rééquilibrages qui se font parfois... au-delà de notre volonté personnelle, je dirais. Donc il y a même des karmas, mais qui sont différents dans les autres règnes. Voilà en gros pour cette vision générale du karma dans les règnes. Et
donc cette loi d'action-réaction, en fait, elle a pour fonction d'équilibrer en fait, les choses, hein, les énergies.
L'esprit et la matière, en quelque sorte. Quand l'esprit et la matière est complètement équilibrés, on gère positivement la loi de karma, c'est pas qu'elle disparaît, mais on la gère complètement positivement. Ce que font les maîtres de sagesse. Ils la gèrent avec sagesse et ils font pas de mauvais karma, entre guillemets. Voilà, merci Olivier, merci à tous.
Merci David, et au mois prochain.